Ouvrons avec un mot de prière. Alors, bon Père Céleste, merci du beau témoignage de nos enfants, Seigneur, qui nous ont rappelé l'importance des fruits de l'Esprit dans nos vies et que, Seigneur, ton Esprit qui vit en nous, tu es et nous sommes maintenant la lumière du monde. On te remercie que cette lumière est venue parmi nous ce beau matin de Noël, ce jour de Noël, lorsque l'enfant Jésus est né. Seigneur, ce n'est pas tout à fait ce qu'Israël s'attendait. Mais il a fallu, Seigneur, que tu te présentes humblement, tout à fait homme et tout à fait Dieu, avec le but unique de mourir, de nous donner espoir, de nous sauver de nos péchés. Donc, Seigneur, bénis-nous dans l'ouverture de ta parole. Aide-moi par ton esprit afin que les paroles qui seront partagées sont vraiment de toi et non de moi, Seigneur. Sinon, Seigneur, je tremblerai. Merci encore, Seigneur, d'être là. Dans le beau nom du Seigneur Jésus. Amen. On va voir si ça va fonctionner. Alors, en préparant le message pour ce matin, c'était suite à quelques dimanches où on avait déjà abordé le thème de Noël, la saison de l'Avent, qui est une préparation pour célébrer Noël. Puis on pourrait dire aussi que on est appelé justement ce matin à recapturer un glorieux Noël. Ça en vient? OK, on va espérer. Si, écoute. Moi, je ne m'occupe plus de ça, là. Tu feras un petit signe pour dire qu'il est là parce que je n'ai pas besoin de tourner de bord trop souvent. Puis s'il ne vient pas, mais pas grave. Je pense que vous allez être d'accord avec moi que dans le christianisme, Noël, c'est peut-être la fête qui est la mieux connue. Que presque universellement, oui, quand même ici au Canada, quand même, et dans plusieurs pays, on fête Noël, puis on fait de ça quelque chose de grand. Puis on sait que c'est grand parce que l'Halloween n'est même pas passé, puis les décors de Noël sont déjà sortis des magasins. On met beaucoup d'importance sur Noël. On pourrait dire que le fait que Walmart mette leurs décorations avant l'Halloween, ça n'a rien à faire avec l'arrivée du Seigneur Jésus, puis c'est là où il y a une grande tristesse. Oui, on en fait beaucoup. C'est un temps qui est bien rempli. C'est un temps qui est vraiment très organisé. Il faut aussi dire que c'est un temps émotionnellement chargé. Ça, je le sais parce que mon père nous a quittés la fin octobre. Et puis, pour une première fois, tous les enfants, on ne célèbre pas Noël dans nos foyers. On se rend chez ma mère, comme quand on était petit bout, pour célébrer Noël avec elle. Parce que c'est émotionnellement chargé. Pour une personne qui vit un deuil, il semble que Noël, là, ça fait que juste amplifier le deuil. Il semble qu'on pleure plus fort. Hein, c'est un temps qui est émotionnellement chargé. Il y a beaucoup de souvenirs qui sont attachés à Noël. Et j'ai juste à regarder les photos puis les vidéos que j'ai prises à travers les années depuis que mes enfants sont petits. Écoute, Noël 2001, Noël 2002, Noël... Écoute, il y a peut-être une fête de temps en temps, mais tu sais, les jours ordinaires, là, on n'a pas beaucoup de vidéos. Mais on a beaucoup de photos autour d'un arbre de Noël à déballer des cadeaux. C'est un temps qui est vraiment chargé. Beaucoup célèbrent Noël. Mais est-ce qu'ils vont s'arrêter pour se demander où est réellement la gloire de Dieu dans tout cela. La Bible nous montre justement que ce problème-là n'est pas nouveau. Et ce matin, j'aimerais vous partager une histoire de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui arrive dans notre siècle présent par rapport à la fête de Noël? Pour Israël, qui était le peuple choisi de Dieu, ils ont connu qu'est-ce que c'était d'avoir la nécessité de recapturer la gloire de Dieu. C'est pourquoi on va regarder ensemble dans quatre étapes comment la gloire de Dieu a été premièrement perdue, comment elle a été désirée, comment elle a été restaurée, et finalement, et comment Noël en est l'accomplissement parfait de ce que Israël faisait l'expérience. On va aller chercher notre histoire dans le prophète 1 Samuel. Moi, ça va être quand même commode de voir mes cliches parce que les versets sont là-dessus. Alors, je vous lis à partir de 1 Samuel au chapitre 4. Et l'histoire commence au verset 12. Et ça commence comme ceci. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo. Le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, le prophète Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit « Que signifie ce tumulte? » Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, « J'arrive du champ de bataille. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Mais Élie dit, « Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? » Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, « Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Hophni et Phinée, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. » À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phinée, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu et de la mort de son beau-père et celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et ne fit pas d'attention. Elle appela l'enfant Ichabod, en disant, « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Donc, si vous ne savez pas, l'arche de Dieu, c'était vraiment juste une boîte dans laquelle on avait placé les tablettes des 10 commandements. Il y avait un peu de manne là-dedans aussi, comme un rappel du passé. Il y avait aussi un roseau que Aaron avait, qui fleurissait. Et puis, c'était un souvenir sur lequel on mettait un couvert. Et sur le couvert, c'était orné de deux chérubins faits en or. Et c'est sur le dessus de ce couvert que la présence de Dieu s'installait. Et il a fallu le mettre derrière un rideau spécial, le lieu le plus sacré, parce que de le voir, Dieu, c'était la mort. Seul le grand prêtre, une fois par année, avait le droit de passer par le rideau pour aller faire un culte, pour expier les péchés du peuple d'Israël. Donc la gloire de Dieu, Dieu lui-même, dans sa gloire, demeurait avec son peuple, sur l'arche de l'Alliance. Et maintenant, voici les Philistins qui en ont pris possession. Mais vous allez dire, mais c'est quoi faire avec Noël? Ben, qu'est-ce que j'essaie de faire une comparaison que Noël aujourd'hui, pour beaucoup de gens, là, il n'y a pas de gloire. L'Éternel n'est pas présent. Même si c'est peut-être la dernière chose qui leur vient à l'idée. Aujourd'hui, Noël, c'est le Père Noël, c'est les cadeaux, c'est festoyer, c'est prendre un repas, etc. Puis, écoute, c'est pas méchant en soi, mais qu'est-ce qui est méchant, c'est que on a complètement abandonné la gloire de Dieu. Puis comme Église, c'est notre responsabilité de s'assurer que la gloire de Dieu fait partie de notre Noël et on a un témoignage pour ceux qui nous entourent dans nos familles de faire en sorte que eux ils comprennent pour nous là Dieu avant tout. Moi mes enfants là, en grandissant ils savaient que on descendait pas les escaliers pour aller courir à l'arbre de Noël pour déballer quelque chose. On avait toujours un culte en famille. On ouvrait la parole de Dieu. On lisait l'histoire de Noël. Des fois, on montrait un petit film. Des fois, on faisait un jeu. Mais on faisait quelque chose en famille pour rappeler à nos enfants que Noël, c'est lorsque l'Église prend un temps pour se rappeler de la naissance du Messie. C'est ça qui est important. Parce que sinon, on n'a pas d'espoir. Israël avait traversé un grand déclin spirituel. C'est un peu comme qu'est-ce qu'on a fait avec Noël. C'est comme on a oublié Dieu. Le peuple désobéit. On mentionne justement les prêtres à l'époque qui étaient les fils d'Élie. C'était pas des bons prêtres du tout. Eux, là, ils étaient là-dedans là, pour se remplir leurs poches avec des trésors, de l'argent, de l'influence. Ils servaient pas vraiment à Dieu comme ils étaient supposés de le servir. Les sacrificateurs étaient devenus corrompus. Mais on utilisait quand même encore les choses saintes. L'arche lui-même, pour Israël, était devenu un peu comme un porte-bonheur. Si on allait à la bataille, on sortait l'arche pour aller avec eux pour dire, ben, nous, on a l'Éternel sur notre bord. C'est comme si c'était un objet qu'on pouvait frotter pour gagner des batailles. C'était devenu un objet religieux. C'était devenu un moyen de manipulation. L'arche est prise maintenant et la gloire se retire. Dieu n'est plus assis parmi les chérubins sur l'arche de l'Éternel. Israël, après, si on avait continué l'histoire, on sait qu'ils ont vraiment connu un dur temps. Ils n'en gagnaient plus de bataille. Et le peuple a commencé à avoir une soif. La gloire était absente, mais elle était désirée. Parce qu'il y en avait parmi le peuple qui se rappelait de la vie en Israël lorsque la gloire de Dieu était assise sur l'arche de l'Alliance. Lorsque Israël était fidèle à Dieu et que Dieu les a fait rentrer en triomphe dans un pays promis. Il y en a beaucoup qui se rappelaient. Et là, ils voient la situation et puis il s'installe en eux un soupir. 1 Samuel chapitre 7 au verset 2, nous lisons, toute la maison d'Israël soupirait après l'Éternel. Hein, ça n'a pas fui immédiat, là. Ça a pris comme une soixantaine ou 70 ans à peu près, là, avant que Israël regagne une soif. Pendant toutes ces années-là, l'arche était absente, la vie religieuse continuait, mais quelque chose manquait. Et le peuple soupire. Un réveil spirituel. Ça commence rarement par du bruit. C'est presque toujours un soupir intérieur en premier. Et avec le temps, un petit soupir intérieur devient un cri de toute une population. Il y avait des témoins parmi le peuple qui étaient là pour rappeler au peuple, hey, on était-tu donc ben lorsque l'Éternel était avec nous. Ils se souvenaient des victoires dans les batailles, dans les guerres contre leurs ennemis. Et maintenant, ils connaissaient la défaite. Et puis, ils ont eu l'idée, puis c'est ça où il y a des fois le problème, c'est qu'on a juste à aller chercher l'objet de notre désir. Il faut aller chercher l'arche de l'alliance des Philistins. N'y avait pas beaucoup d'opposition par les Philistins de voir partir l'arche de Dieu. Hein? Eux, pour eux, ils savaient qu'Israël, il y avait une armée forte, tout allait bien, ils gagnaient les campagnes à la guerre, et donc ils ont pensé, nous aussi, on va aller chercher ce porte-bonheur, puis ça va être à notre tour de connaître la victoire, mais Dieu les a jamais bénis avec la victoire. Hein? Ce n'était pas un porte-bonheur dans le sens que celui qui l'occupait avait qu'est-ce qu'il voulait, son désir. Même les Philistins en ont voulu s'en débarrasser. Alors Israël formule un plan pour aller chercher l'objet désiré, mais ils ont manqué. Ils l'ont pas récupéré de la bonne manière. Moïse avait été donné des lois par rapport à le culte et la façon de faire les choses. Puis Dieu a été très, très spécifique par rapport à l'arche, comment elle était être bâti, sa dimension, de qu'est-ce qu'elle serait fait, quel bois serait utilisé, elle serait recouverte d'or, etc. Il y a des chapitres pleins de détails. Des fois, on se perd dans les détails. C'est tellement minutieux, tous les détails qui sont donnés. Et puis, ils ont été clairement dit, parce qu'il y avait des pôles qui ont été placés dedans, il fallait le porter dans les bras des prêtres. Il fallait que ça soit porté par les perches. Mais eux, en voulant aller le chercher, ont dit, ben, il est sur un chariot chez les Philistins. On va amener un nouveau chariot, puis on va le placer dessus, puis les bœufs vont le traîner. Ils ont voulu faire à leur manière. Ils étaient vraiment encore pris avec une bonne intention, mais avec une mauvaise exécution. Des fois, je pense que c'est ce qui est arrivé à notre Noël. On est bien intentionné, on veut faire des choses pour faire plaisir à nos familles. On tombe dans le même, pourrait dire, importance que la société met sur les fêtes de Noël. Nous aussi, on est excités de voir des films à la télé. Ben, pas moi tellement, là, mais Muriel, elle aime ça, les Hallmark, là. Puis il y a toujours des princes, puis des rois, puis une femme qui travaille aux États-Unis. Vous le savez, surtout les femmes, vous le savez, là. On tombe dans les mêmes pièges. Des fois, on veut recapturer le vrai Noël, mais on est tellement pris avec tellement d'autres choses que des fois, on exécute mal. David, le roi, voulait ramener l'arche. L'intention était juste. Le peuple soupirait et puis finalement, les Philistins n'en voulaient plus. Un char neuf a été bâti comme celui des Philistins. On se rappelle que Uzza, le prêtre, lorsque l'arche était pour tomber, il a comme touché pour essayer de l'éviter de tomber, puis pff, il est mort. Pourquoi? Parce que la loi de Moïse par rapport à l'arche, tu ne le touches pas. Tu ne le portes pas dans tes mains, c'est sur des perches qui est porté, pas sur un chariot. David est bouleversé. Hey! J'ai voulu ramener l'arche à la gloire d'Israël. Je suis le roi. Tu sais, c'était son cœur de vouloir que ce soupir d'Israël soit rassasié, mais ils se sont pas pris de la bonne façon. Ils n'ont pas été d'après la parole de Dieu et obéir à Dieu. Ça prenait une restauration, mais il fallait que cette restauration-là vienne de Dieu. On se souvient comment que ça finit. Ils se sont rappelés de qu'est-ce que la parole disait, comment faire. Et puis, ils ont obéi, ils l'ont fait comme ils étaient supposés de faire. Et puis, ils sont rentrés à Jérusalem, et puis, on chantait, on dansait, on louait l'Éternel. David dansait tellement violemment là, que sa femme qui le voyait par la fenêtre, il dit, il est viré fou ce gars-là, il est rendu sur une brosse. Tellement que David était exalté, tellement content que l'arche soit rapportée en Israël, à Jérusalem, et puis il en dansait dans la rue. Dieu était honoré parce qu'on a fait selon sa parole et la joie est revenue naturellement pour les bonnes raisons. La gloire restaurée. Pour nous, dans le contexte de Noël, si l'Église cherche de voir la gloire de Dieu restaurée dans la fête de Noël, ça devrait toujours produire en nous de l'adoration. C'est bien que l'Église ait un témoignage pour rappeler ceux de nos familles, surtout parce que c'est là où on a les plus grandes influences. S'il y a des gens qui arrivent chez vous pour festoyer le temps des fêtes, c'est le temps de leur parler du Seigneur. De faire quelque chose, que ce soit avant de manger, de bénir la nourriture, de remercier le Seigneur pour sa bonté, et puis peut-être chanter des beaux cantiques comme on a chanté en famille. Les gens connaissent les paroles, là, hein? Ça joue depuis toujours. C'est ça que je ferais quand on va être chez ma mère. On sort la guitare, on chante des chants, même s'il y en a dans ma famille qui n'ont vraiment pas de religion, on pourrait dire, là. Ils n'ont pas de relation avec le Seigneur. Ben, des fois, ils vont même chanter avec nous. Et l'important, c'est qu'ils entendent les paroles, ils entendent le témoignage de qu'est-ce que c'est Noël. C'est l'espoir de l'humanité, Dieu parmi nous. Lorsque l'arche fut remplacée et placée au centre du culte d'Israël, mais la louange a éclaté par tout le peuple. La reconnaissance déborde, on voit ça en 1 Chronique, chapitre 16, et les œuvres de Dieu sont proclamées. Là où Dieu est réellement au centre, l'adoration n'est pas forcée. Ce n'est plus une obligation, c'est devenu une réponse. Pourquoi Noël, c'est la gloire définitivement revenue parmi les hommes? Bien, je vais vous le dire. L'arche était juste un symbole. Parce que l'arche et le culte d'Israël ne pouvaient pas, comme qu'est-ce que Christ a pu faire, apporter un véritable pardon au péché. Dans le culte d'Israël, Dieu les avait donné une façon de se repentir et de faire, on pourrait dire, mis de côté leur péché. C'est comme si leur péché était caché. Dieu cachait le péché, il les pardonnait, et c'était comme un pardon conditionnel, pas comme le pardon qu'on reçoit après que Christ est venu sur cette terre. Parce que Christ est allé à la croix, il était l'offrande parfaite. Les offrandes de l'Ancien Testament, là, ça avait un temps, ça avait son raison d'être, c'est sûr, ça gardait une communion entre Dieu et l'homme, mais l'homme était encore coupable du péché, et plaçait leur espoir dans un Messie qui viendrait pour ôter le péché du monde. Dieu ne revient pas dans un coffre orné comme celui de l'Ancien Testament. Dieu revient comme homme, comme Dieu, pour mourir pour nous. Il a toujours été un serviteur. Il a toujours béni les gens autour de lui. Il enseignait que le royaume de Dieu venait. Ça se réalisait. Et puis on sait que c'est vrai parce que lorsqu'il est mort, ce fameux rideau là, qui séparait le coffre, hein, l'arche de l'Alliance de toute la nation d'Israël, a fut déchiré. Dieu n'avait plus besoin d'occuper sa place dans une boîte, au-dessus d'une boîte. Il venait demeurer en nous par son esprit. C'est ça la différence. C'est beaucoup plus glorieux aujourd'hui de savoir que Dieu peut nous habiter par son esprit lorsqu'on devient enfant de Dieu. Et c'est pour nous, c'est ça qui change Noël pour nous. Noël devient l'événement à se rappeler que Dieu est parmi nous, Dieu est venu parmi nous et il demeure avec nous, même il demeure en nous. Noël, c'est la gloire de Dieu. Elle n'est plus voilée par un objet, mais révélée dans un enfant, humble, accessible, proche. Donc, c'est quoi l'application pour nous comme Église, dans nos familles, parmi notre parenté? Mais pour nous, c'est de revenir à la parole, de faire sûr que la parole a sa place, comme les enfants nous ont parlé, les fruits de l'esprit, mais comment développer ces fruits-là? Mais il faut être dans la parole de Dieu. Prenons du temps. Dans le temps de Noël cette année, de lire l'histoire de la naissance de Christ, soit au Luc chapitre 2, c'est souvent le favori parce qu'il y a beaucoup plus de détails, ou même en Matthieu chapitre 1 et 2, on nous dit exactement qu'est-ce qui s'est passé. C'est bon de le relire. Recentrer tout sur Christ. Ça ne veut pas dire aller mettre vos arbres de Noël dehors. Écoute, on a un ici, il est très beau. C'est beau, hein? La belle lumière, ça nous rappelle de la lumière. Il y a une place pour la culture qui s'entremêle avec notre relation véritable avec Dieu. Dieu n'a pas enlevé à Israël sa culture. Ils avaient donné une culture. Ils avaient donné un culte. Et puis, ils ont donné des occasions de festoyer. Ils avaient plusieurs fêtes eux aussi. Puis c'est dans ces fêtes-là où Israël se tournait à l'Éternel pour lui remercier, pour faire des offrandes, pour le glorifier. On est appelé à faire la même chose, puis on peut les vivre avec un arbre de Noël, puis des cadeaux qui se donnent, mais se rappeler que le plus beau cadeau qu'on a reçu, on l'a déjà reçu. On ne peut pas avoir un plus beau cadeau, on ne peut pas déballer quelque chose de plus beau que la vie éternelle en Jésus-Christ. On devrait choisir l'adoration plutôt que la distraction. C'est dans le temps des fêtes, il y a plein de choses qui pourraient nous distraire, mais prenons un temps, un petit culte en famille. Prenez le temps avec vos enfants pour remercier le Seigneur pour tout ce que nous avons, tous ses bienfaits, avant d'aller déballer encore d'autres cadeaux. De lui remercier pour ces cadeaux-là, pour l'amour, pour la famille, pour tout ce que nous avons, notre Église. Et le problème, des fois, on pense que Noël, c'est le 25 décembre, puis on se focalise sur la journée, sur les activités de ce jour-là, et pour le reste de l'année, mais c'est comme on l'oublie. La gloire de l'Éternel. Dans Noël, c'est qu'on le vit à tous les jours. On vit notre vie tous les jours en se rappelant que Dieu est venu parmi nous, habiter avec nous, nous donner espoir, nous donner le pardon. Donc Noël, ce n'est pas un jour, c'est plutôt une présence, puis que la présence de Noël nous reste pendant toute l'année. Prions. Alors Seigneur, tu es tellement bon pour nous. Et puis on a vu, Seigneur, que comme Israël, combien que c'est facile, Seigneur, de se distraire avec plein de choses, et que même notre culte devient plus de la religion, Seigneur, et c'est que notre relation en souffre. Parce que, Seigneur, comme Israël prenait l'Arche de l'Alliance comme étant un porte-bonheur pour gagner des batailles, pour aller à la guerre contre leurs ennemis. Mais s'ils gagnaient, c'est parce que tu étais avec eux. C'était l'important. C'est pas l'arche de l'Alliance qui était important. C'est ta présence qui était importante. Seigneur, tu nous donnes dans le temps des fêtes, à Noël, de nous rappeler de cette belle vérité que tu es parmi nous. Mais Seigneur, on sait que tu es parmi nous à tous les jours, dans chaque quotidien, dans chaque épreuve, dans chaque joie, dans chaque peine, tu es toujours là. Bénis ton Église, bénis-nous tous rassemblés ici et sois glorifié, Seigneur, dans le cœur de tes enfants. Nous te le demandons dans le beau nom du Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis.